BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Stéphanie Collo. Good evening business.
19h sur BFM Business, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on est ensemble et en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, le record sur le Bitcoin qui a franchi la barre symbolique des 100 000 dollars. Donald Trump n'a pas tardé à s'en attribuer le mérite. Il faut dire que c'est la nomination d'un républicain très pro-crypto à la tête du gendarme américain de la bourse qui a accéléré la tendance à la hausse. Décryptage dans un instant. On attend aussi la prise de parole d'Emmanuel Macron. Dans moins d'une heure, le chef de l'État s'adresse aux Français après avoir pris acte à la mi-journée de la démission de Michel Barnier. A priori, pas d'annonce d'un nouveau Premier ministre ce soir. Une situation politique en tout cas qui va peser sur la consolidation des finances publiques, préviennent d'ores et déjà les agences de notation. En tout cas, ça n'affole pas les marchés, loin de là. On fera le point. Pendant ce temps, ça s'accélère pour le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Ursula von der Leyen est à Montevideo en Uruguay. Objectif, finaliser un accord de libre-échange qui donnerait naissance à un marché de 700 millions de consommateurs malgré l'opposition de la France et les réticences de l'Italie, l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas. Voilà pour le programme. D'abord, c'est le journal.
Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr.
Good evening business, le journal.
Et on commence donc par un record, celui du Bitcoin. On l'attendait depuis plusieurs jours, mais ça y est, le cap est des 100 000 dollars est passé, même dépassé. Amaury de Tonquédec, c'est la nomination d'un républicain très pro-crypto à la tête du gendarme américain de la bourse qui a accéléré la tendance à la hausse.
Clairement, ça a aidé. Il y a quelques jours, on a appris la démission de Gary Gensler, donc l'ex chairman de la SEC, mais qui lui était connu pour être vraiment anti-crypto. Il faisait quasiment une croisade personnelle contre l'écosystème crypto. Il a démissionné. Et là, effectivement, on apprend hier la nomination de quelqu'un à sa place qui est carrément, c'est pas qu'il est neutre, c'est qu'il est complètement pro-crypto et en accord avec ce que veut faire l'administration de Donald Trump. Et puis, le même jour, il faut dire quand même que Jérôme Powell, le président de la Fed, la plus grosse banque centrale au monde, la présidente de la banque centrale américaine, a comparé l'or au Bitcoin. Il a dit que le Bitcoin était un concurrent sérieux à l'or. Donc, clairement, ça a aussi mis le feu aux poudres. Et après, l'autre étape qu'il pourrait y avoir pour que le Bitcoin continue à s'envoler, c'est clairement si des pays se mettent à faire des réserves stratégiques en Bitcoin. On sait que le Salvador a commencé à le faire, mais il y a des mauvaises langues qui disaient « oui, mais c'est le Salvador ». Sauf que demain, si c'est les États-Unis, on ne pourra pas dire « oui, mais c'est les États-Unis ». Et c'est en projet, en tout cas, il y a une sénatrice américaine, Cynthia Loomis, une républicaine, qui a pour projet d'acheter 1 million de Bitcoin en vendant des réserves stratégiques d'or, donc vendre de l'or pour acheter du Bitcoin.
Et notez que le Bitcoin oscillait encore autour des 69 000 dollars le 5 novembre dernier, jour de l'élection présidentielle américaine. Ce soir, le Bitcoin tutoie les 103 000 dollars. L'OPEP+ a réussi à se mettre d'accord. Le cartel prolonge ses coupes de production jusqu'à mars prochain. Décision prise pour soutenir les cours de brut. La réouverture des vannes se fera progressivement jusqu'en septembre 2026. On en vient à la situation en France. Emmanuel Macron doit prendre la parole à 20h. Le chef de l'État a pris acte de la démission de Michel Barnier et de son gouvernement à la mi-journée. En attendant, il gère les affaires courantes. De son côté, Emmanuel Macron consulte. Il a reçu la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Et déjeuner aussi avec François Bayrou. A priori, pas d'annonce d'un nouveau Premier ministre ce soir à attendre de l'allocution du président. En attendant, à gauche, on appelle à la nomination d'un nouveau Premier ministre issu du NFP. Du côté des écologistes, Cyril Châtelain, député des Verts, le répète, on est prêt à gouverner et la feuille de route aussi est prête.
On a travaillé sur une feuille de route gouvernementale parce que la question, c'est pas seulement celle du périmètre, c'est celle du contenu. On pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux fondamentaux. La question, par exemple, des salaires, c'est-à-dire qu'il faut lancer tout de suite une conférence pour la hausse des salaires. La question de l'industrie, qu'on a une multiplication des plans sociaux et bien évidemment celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, nous, c'est ce que nous posons. On pense que c'est une ligne qui est indispensable pour un gouvernement de gauche. Par contre, oui, cette ligne, elle doit être adoptée à l'Assemblée. Ça veut dire que ce sont des propositions qui sont soumises au débat et qui doivent trouver une majorité, un passage parlementaire, bien sûr à partir de la gauche, mais avec l'ensemble des autres groupes hors Rassemblement national.
Une situation en tout cas qui va peser sur la consolidation des finances publiques de la France, c'est ce qu'ont déclaré les agences de notation Moody's et S&P. Au flou politique s'ajoute une journée de grève aujourd'hui dans la fonction publique. La CGT dénombre 200 000 manifestants en France, dont 30 000 à Paris, contre 130 000 selon les autorités. Les fonctionnaires protestent notamment contre le projet d'instauration de 3 jours de carence pour leurs arrêts maladie. Dans l'éducation nationale, le mouvement a été suivi par près de 25% des personnel. Un soulagement pour les partenaires sociaux dans ce marasme, l'accord sur l'assurance chômage va bien être validé malgré la censure. Les nouvelles règles conclues entre les partenaires sociaux s'appliqueront dès le 1er janvier, excepté quelques-unes, dont celles sur les frontaliers, qui pourraient être retirées. Caroline Morisseau.
Rien ne semble plus pouvoir empêcher l'entrée en vigueur de l'accord en début d'année prochaine. Selon une source proche du gouvernement, cela relève bien de la simple gestion des affaires courantes. La ministre du Travail démissionnaire va donc très vite agréer cet accord et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre n'y changera rien. Décalage des bornes d'âge pour les seniors, baisse des cotisations patronales. Deux mesures posent toutefois problème. L'assouplissement des conditions d'ouverture des droits pour les jeunes. Pour eux, l'accord prévoyait 5 mois de travail au lieu de 6 pour être indemnisé. Cela supposait de passer par la loi. La mesure va donc être retirée. Autre disposition et autre problème, la baisse de l'indemnisation des travailleurs frontaliers. Cela pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel au nom de l'égalité de traitement entre chômeurs. Derrière, un recours pourrait faire tomber tout l'accord. Face à ce risque juridique, la ministre du Travail envisage d'abandonner la mesure, quitte à renoncer à un peu plus de 700 millions d'euros d'économies sur 3 ans. Selon une source patronale, d'ultimes arbitrages sont en cours.
Autre conséquence de cette censure et de la chute du gouvernement, certaines compagnies aériennes vont rembourser des trop perçus à leurs clients. Elles avaient augmenté leurs tarifs pour les voyages à partir de janvier, anticipant une hausse des taxes. Le projet de loi de finances 2025 étant gelé, Air France, KLM ou encore Corsair confirment que les remboursements des clients concernés auront bien lieu. Ce flou politique inquiète les milieux économiques et patronaux. C'est une situation que les investisseurs, qu'ils soient financiers, économiques ou industriels, n'aiment pas, à déclarer le directeur général de Safran. Olivier Andriès anticipe une pression sur le budget de la défense. En attendant, l'équipementier aéronautique a livré des prévisions plutôt optimistes pour les années qui viennent. Dès l'an prochain, Safran prévoit une hausse des livraisons de ses moteurs LEAP à plus longue échéance. D'ici 2028, le groupe table sur une croissance annuelle moyenne comprise entre 7 et 9%. Jean-Baptiste Thuet.
Le ciel est plutôt dégagé pour Safran après une année 2024 délicate où le groupe a dû revoir ses perspectives à la baisse. 2025 s'annonce mieux. Le nerf de la guerre, les cadences de livraison. Là, l'équipementier promet une hausse des livraisons de ses moteurs LEAP qui devrait atteindre les 15 à 20%, une croissance de son chiffre d'affaires de 10% et un résultat opérationnel courant aux alentours de 4,8 milliards d'euros. Le groupe a aussi livré des perspectives pour 2028. Objectif entre 6 et 6,5 milliards d'euros de résultat opérationnel. Un objectif de marge au-dessus de 20% pour la propulsion et 2500 moteurs livrés contre 1413 cette année. Safran a aussi l'œil rivé sur sa chaîne de sous-traitance afin de réduire dans les mois qui viennent les goulets d'étranglement qui demeurent. Enfin, interrogé dans la presse, Olivier Andriès, le directeur général, explique aussi que le projet d'ouverture d'une usine de frein est toujours d'actualité, seulement Safran a été éconduit par la majorité écologique de la métropole lyonnaise. Le groupe indique que la France reste une option, mais que d'autres possibilités existent aux États-Unis, au Québec. Réponse au premier semestre 2025.
En tout cas, ces perspectives ont été mal accueillies par les marchés. Le titre Safran chute de 7,3% à la clôture ce soir, 211,90 euros. Notez qu'Olivier Andriès, le directeur général de Safran, sera l'invité d'Edwige Chevrillon lundi prochain à 18h10 sur BFM Business. Et puis on termine avec le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Ça se précise, Ursula von der Leyen est à Montevideo en Uruguay. La présidente de la Commission pourrait ratifier le traité d'ici demain et ce malgré l'opposition catégorique et répétée de Paris. Ursula von der Leyen prend une responsabilité et un risque, prévient une source diplomatique française. Cet après-midi, Emmanuel Macron a redit que cet accord est inacceptable en l'état. 19h10 sur BFM Business, tout de suite les marchés. Les marchés avec Antoine Larigauderi. Comment ça se passe pour le CAC? On a terminé dans quelle direction ce soir?
En hausse, sixième séance de hausse consécutive à Paris. Alors à chaque fois, c'est des tout petits scores. Plus 0,37% encore aujourd'hui à 7330 points. Mais on se retrouve au plus haut depuis la mi-novembre. Donc on retrouve des niveaux intéressants. Et puis surtout, les volumes d'échanges sont assez significatifs, à 3,9 milliards, sensiblement plus élevés que d'habitude. Et on a de très belles progressions sur un certain nombre de secteurs qui avaient besoin de se reprendre. Accor qui reprend 4,8% à 46,10€. Stellantis, bien sûr, avec beaucoup de spéculation autour d'un futur directeur général. Le titre gagne 3,8% à 12,55€. Et puis on a le secteur bancaire aussi bien orienté. Société Générale gagne 4,3% à 25,62€. Hors indice, a signalé la très forte hausse de Soitec, qui gagne 12,5% à 85€, avec un accord industriel renouvelé avec Global Foundries. On a Air France KLM, dont vous avez parlé, qui regagne 5,8% à 7,61€. Non, la seule fausse note du jour, elle est dans l'aérien, mais plus dans l'équipement. C'est Safran qui recule de 7,3% à 211,90€, avec des prévisions décevantes pour l'année 2028. Le CAC 40, plus 0,37%, 7330 points. Un petit coup d'œil sur l'euro-dollar, 0,574. Puis évidemment sur le Bitcoin,
on est un peu redescendu. On en est où?
On est toujours au-delà des 100 000. On n'a pas décroché. 101 319 $ à l'instant.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. Un mot des marchés américains, évidemment, du côté de New York, le Dow Jones perd 0,2% à l'heure actuelle. Du côté du Nasdaq, on est sur une légère hausse, plus 0,2%. On est donc mitigé sur les marchés américains. Dans un instant, nos experts arrivent. En attendant, évidemment, la prise de parole d'Emmanuel Macron, va s'intéresser aux conséquences économiques de ce flottement politique. On parlera aussi du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts sont là comme tous les soirs pour refaire l'actu. Denis Ferrand, bonsoir. Vous êtes directeur général de Rixécode. Léonidas Calogero-Poulos, vous êtes président de cabinet médiation et arguments, fondateur d'Entreprendre pour la République. Bonsoir. Bonsoir. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, bonsoir. Membre des économistes atterrés. Et Franck Morel, avocat associé, bonsoir. Ancien conseiller social d'Édouard Philippe. Je le disais, on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron dans moins d'une heure. La présidente de l'Assemblée nationale demande au chef de l'État d'agir rapidement pour ne pas laisser s'installer le flottement. La ministre Agnès Pannier-Runacher plaide, elle, pour une nomination rapide pour envoyer un message fort à ceux qui prêtent de l'argent à la France. Denis Ferrand, il faut aller vite pour ne pas laisser l'incertitude s'installer. Il y a vraiment urgence.
Oui, effectivement, il y a d'ailleurs, le mot incertitude est un mot intéressant parce qu'il y a eu un travail qui a été publié tout récemment par l'OFCE que connaît bien Henri, qui essaye d'évaluer l'impact que peut avoir l'incertitude sur la croissance, et avec notamment une estimation à hauteur de 0,3 points de croissance en moins du fait de la remontée de l'incertitude politique pour l'année 2025, du fait de l'incertitude politique constatée au cours des 3e et 4e trimestres. Et cela ne préjuge rien de ce qui va se passer ensuite, bien entendu. Donc voilà, il y a déjà 0,3 points qui a été perdu. Donc, par rapport à une prévision du gouvernement qui a bâti un budget sur une hypothèse de croissance à 1,1, donc rabotons déjà de 0,3 points, on arrive à 0,8. Ça fait déjà plus tout à fait les mêmes recettes et donc s'enclenche un cercle qui n'est pas forcément très vertueux.
Et pourtant, on a les agences Moody's et S&P qui nous disent que la chute du gouvernement réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques. Ça constitue un événement négatif pour le crédit. Pourtant, on n'a pas d'emballement des marchés. On a ce soir le CAC qui termine encore en hausse. Comment l'expliquer, ça ?
On a quand même l'impression que la BCE est un peu à la manœuvre. Quand vous regardez les réinvestissements de titres qui viennent à échéance par la BCE, elle a peu réinvesti. Elle a désinvesti sur des titres allemands, sur des titres italiens, et elle a beaucoup moins désinvesti sur les titres français qui venaient à échéance. Donc cela laisse à penser que la BCE a probablement changé un peu sa clé de répartition dans ses achats de titres du Trésor, plutôt un peu plus en faveur de la France, pour essayer justement de calmer une tension qui pourrait apparaître. Néanmoins, n'oublions pas que depuis la dissolution. On a 40 points de base en plus dans l'écart de taux vis-à-vis de l'Allemagne. Vis-à-vis de l'Italie, c'est 50 points de moins. Enfin, l'écart s'est resserré. Maintenant, on est beaucoup plus proche du taux italien que du taux allemand. Et si on fait un petit calcul de ce que serait un peu le prix de la dissolution, 40 points de base en plus, sur une seule année, l'année prochaine, on va émettre 300 milliards de dettes. 40 points de base en plus par rapport à la situation hors dissolution, ben vous rajoutez 1,2 milliard, tout simplement, voilà, par ce prix.
Ça fait une addition salée, Léonidas.
On est quand même devant un impact économique, on va y revenir, je pense, en détail. C'est globalement des contrats qui ne sont pas signés, des investissements qui sont retardés, des embauches qui sont repoussées. On est véritablement, pour beaucoup de secteurs, dans l'attente de décisions, dans l'attente de savoir quelle sera l'équation économique pour un tas de business qui sont projetés pour l'année prochaine. On regarde son carnet de commandes, on regarde les embauches, les investissements. Tout est dans le flou. Véritablement, je dois dire que pour les décideurs économiques, la question n'était plus de savoir si c'est un bon budget, un mauvais budget. La question est juste de savoir quelle est la règle du jeu, parce qu'on va jouer.
C'est donner un cap, en fait.
C'est donner, donner la règle du jeu. Et là, effectivement, le terme d'incertitude est le bon. C'est juste qu'il n'y a pas de règle du jeu. Donc on est... j'entendais tout à l'heure que les compagnies aériennes
vont rembourser
des taxes. Enfin, il n'est pas possible de pouvoir vivre dans une économie libérale sans qu'il y ait des règles du jeu. On en a besoin et on a presque l'impression que l'univers politique a un peu perdu de vue quelle était sa responsabilité vis-à-vis de la nation. Tant que ça se ressaisisse, oui.
François Morel.
Oui, effectivement. Je pense que le point qui est important dans l'affaire à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est pas tellement la chute du gouvernement. On peut avoir des changements de gouvernement. C'est le fait que cette chute du gouvernement intervient dans un contexte où on n'a pas de budget de la sécurité sociale et où on a une capacité de prise de décision qui va être extrêmement encore plus compliqué qu'il était déjà, puisque le gouvernement évoluait dans le cadre d'une majorité extrêmement relative. Et compte tenu du contexte dans lequel le gouvernement chute, on s'interroge beaucoup sur la capacité qu'auront les pouvoirs publics de prendre des décisions. Et donc l'incertitude, elle vient pas du changement d'une tête à Matignon, puisqu'on a eu des changements dans le passé de tête à Matignon. C'est le fait que ce changement de tête intervient dans un contexte sans précédent depuis très longtemps, puisque sous la Ve République, c'est la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure est votée. Le précédent de 62, en plus, n'a rien à voir avec la situation actuelle. On était dans une situation radicalement différente. Et donc, on est véritablement... Là, on entend parler parfois de crise de régime. J'irai pas jusqu'à utiliser ce terme, parce que je pense au contraire qu'on a vraiment une chance énorme d'avoir la Ve République et d'avoir les institutions de la Ve République qui nous protègent quand même contre un certain nombre de mécanismes. Et je pense que la crise serait encore plus forte si on avait des institutions comme on a pu en avoir par le passé. Mais malgré tout, on est sur quelque chose de sans précédent. Et vous l'avez tous dit, les marchés ont horreur de l'incertitude, ont horreur du fait de ne pas savoir ce qui va pouvoir être fait, ce qui va pouvoir être mené à bien en termes de réduction des dépenses dans le contexte en plus de niveau de dette tel que l'on connaît. Tout mis bout à bout contribue effectivement à un climat, je vais employer le mot, anxiogène. Anxiogène, effectivement, c'est le terme qui pourrait résumer le sentiment, qui est le sentiment de beaucoup d'acteurs politiques et économiques aujourd'hui.
Le charme de la situation, c'est qu'il n'y a aucune issue pour s'en sortir avant, disons, 10 mois, même plus. On est dans une situation où on a 3 blocs qui sont relativement homogènes, qu'il est impossible, très difficile de fracturer, et qu'avec 3 blocs homogènes comme ça, il n'y a aucune possibilité qu'un gouvernement obtienne une majorité pour un budget, que tous les gouvernements seront censurés, et on ne voit pas du tout comment on peut s'en sortir de cette situation. Si Emmanuel Macron ne veut pas démissionner. Et donc on peut dire finalement que les marchés sont très gentils avec nous.
Alors,
parce que la hausse du spread est très faible par rapport à ce qui aurait pu, à ce qui devrait être.
Et pour l'instant c'est calme aussi sur les CDS. Mais justement Denis Ferrand, j'ai une question, parce que Michel Barnier il avait mis en garde contre une tempête financière lors de son intervention sur TF1. Si son gouvernement tombait évidemment, est-ce que pour l'instant la mer est calme, mais ça veut dire que le temps pourrait se lever, que voilà, la tempête pourrait arriver?
Oui, il faut toujours faire, il faut toujours faire attention quand on pronostique l'arrivée d'une tempête financière. Elle vient rarement par là où on l'attend, en général. Donc ça, c'est quand même déjà le préalable, à garder présent l'esprit. Mais au-delà de cette tempête, ce qui est clair, c'est justement ces ordres de grandeur que l'on a face à nous. Petit à petit, bien, on va perdre du moyen. Le 1,2 milliard que j'évoquais tout à l'heure, c'est 1,2 milliard sur une seule année. Mais ensuite, bah, vous l'embarquez, cette hausse de taux, vous l'avez d'une manière pertinente et permanente et vous perdez en capacité de marge de manœuvre. Donc pour l'instant, sachant qu'on est quand même dans un marché européen dans lequel il y a la BCE, dans lequel il y a de fait une solidarité qui s'exerce, bien, on est encore relativement protégé. On n'est pas dans la même situation qu'à la Grèce, parce qu'il n'y a pas les mêmes institutions qui sont mises en place aujourd'hui par rapport à ce que cela n'était le cas au moment de la crise financière.
Et la Grèce avait quand même un déficit extérieur de 14% du PIB, ce qui n'est pas notre situation. Hein. On est à peu près équilibré sur le plan du déficit extérieur. Et la Grèce avait vu son taux d'intérêt monter jusqu'à 38%. On en est loin.
Le point qui me semble être important, justement, quand on parle du déficit extérieur, c'est de regarder certes les flux, mais aussi de plus en plus les stocks.
Oui.
Le stock, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la position extérieure nette. C'est l'écart entre les engagements que l'on a vis-à-vis de l'étranger par rapport aux actifs que l'on détient sur l'étranger. Et là, on voit une glissade très régulière. En fait, nous sommes de plus en plus possédés, plus que nous sommes possédants. C'est là le gros changement.
Si je prends une image, je dirais qu'on pourrait dire qu'on touche le fond de la piscine. Enfin, espérons qu'on touche le fond de la piscine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner le coup de pied pour rebondir et pour remonter. Et en tout cas, ça peut être quelque chose de puissamment incitatif vis-à-vis des acteurs, parce que je voudrais revenir sur un élément que vous avez mis sur la table tout à l'heure, qui est celui de la question de la démission du président de la République. Si demain, le président de la République démissionnait et qu'un nouveau locataire de l'Élysée s'installait, ça ne résoudrait pas la crise. L'interdiction dans la Constitution de procéder à une nouvelle dissolution, elle s'applique indépendamment de l'identité du locataire de l'Élysée. Et si éventuellement il peut y avoir un débat constitutionnel, ça veut dire que ce débat constitutionnel, il ne serait pas tranché en amont, il serait tranché en aval, c'est-à-dire en prenant le risque, ce qui est fort probable, que la réponse donnée par le Conseil soit celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un nouveau président de la République, on dit tous, et on a raison, l'histoire le démontre, que les premiers mois sont essentiels.
Oui.
Parce que c'est dans les premiers mois, qu'on insuffle une dynamique. Vous imaginez les premiers mois d'un nouveau président de la République avec une assemblée en 3/3 où il ne pourra rien faire. Donc, j'ai plutôt tendance à penser qu'au contraire, la démission du président de la République serait un facteur d'accélération de la crise et d'aggravation de la crise.
On aura la réponse, quoi qu'il arrive, à 20h. Léonidas Kalogeropoulos, pour en revenir sur les conséquences immédiates de cette censure, de cette démission, on s'attend à une dégradation du climat des affaires. Est-ce que vous vous attendez aussi à un arrêt des investissements, à de l'attentisme dans les entreprises, gel des recrutements, des augmentations salariales? Les NAO arrivent en janvier.
Tout est compliqué. Enfin, moi, je travaille avec des groupes étrangers qui s'interrogent tous les jours sur...
Sur l'investissement dans les filiales françaises, par exemple.
Sur l'investissement, sur leur capacité à être présents sur des appels d'offres. Est-ce qu'ils vont avoir lieu, pas avoir lieu? Est-ce que c'est reporté? Quel est le cadre? Enfin, donc, pour tout investisseur étranger qui s'intéresse à la France, il est presque inconcevable de ne pas se mettre en temps d'arrêt. Enfin, c'est logique, c'est faut en vouloir à personne, c'est humain. Pour un certain nombre d'investisseurs français qui ont des affaires nouvelles et des projets, la question de savoir quel va être le cadre fiscal est totalement incertain. Enfin, on est quand même, avec un quatrième gouvernement qui va arriver sur l'année, on est effectivement avant l'adoption d'une loi de finances dont on sait qu'elle va devoir apporter des corrections, on ne sait pas sur quel poste. Véritablement, je ne sais pas quel est le chef d'entreprise qui pourrait regarder cette situation en se disant « qu'importe, j'avance à l'aveugle ». Donc ce n'est pas possible. Ce qui me semble préoccupant, c'est que on a presque le sentiment que cette crise politique, à écouter les débats comme on l'a tous entendu devant le Parlement hier, on dirait que ce monde politique vit une vie en autarcie, en n'ayant pas conscience de l'impact que ça a sur le reste, sur la nation. comme si ce monde politique avait oublié qu'il est le représentant de la nation et supposé définir un cadre pour la nation. Donc effectivement, on est sans cadre et c'est forcément pour l'ensemble des milieux patronaux un moment où on se dit c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et oui, je pense que pour les citoyens qui attendent que les choses se stabilisent, la question n'est même plus de savoir si ça va être un bon ou un mauvais budget. La question est de savoir est-ce qu'on va avoir un cadre pour pouvoir au moins avoir une règle du jeu.
Le problème des citoyens, malheureusement, c'est que il y a un tiers qui a voté pour la gauche, un tiers qui a voté pour l'extrême droite, un tiers seulement qui a voté pour la politique raisonnable dont vous êtes le propagandiste, sans doute à juste titre. Et donc, naturellement, il y a quand même une responsabilité, peut-on dire, des citoyens. Bon, il y a quand même le fait aussi que les élites se sont coupées, en quelque sorte, les élites politiques, mais aussi les élites économiques se sont coupées de la population et qu'il y a deux tiers quand même des gens qui ont voté pour un changement relativement profond. Et donc, c'est pas seulement une élite politique.
D'accord, je vous ai
entendu. C'est pas une élite politique qui est coupée des gens, c'est également le fait que les gens eux-mêmes sont fracturés.
On écoute la réponse de Léonidas.
Pour vous, et je voudrais quand même vous dire que la question de la démocratie ne résout pas l'équation de 2 et 2, est-ce que ça fait 4 ? Là, lorsque l'on en arrive à se demander qu'est-ce qu'on fait avec les retraites qui ont un déficit arithmétique et que l'on soumet cela à la démocratie pour se dire est-ce qu'on va remettre en cause une réforme des retraites qui permet juste de remettre un tout petit peu les choses à équilibre. La démocratie, le débat, ça permet de résoudre beaucoup de différents, mais pas la question de savoir est-ce que 2 et 2 font 4.
Je sais très bien, Léonidas, que vous êtes contre la démocratie le capitalisme contre la démocratie.
D'accord.
Vous pouvez être d'accord sur le fait que c'est de la responsabilité des classes dirigeantes, c'est de la responsabilité des classes dirigeantes de faire les compromis nécessaires pour effectivement réussir à l'emporter au niveau des urnes.
On fait une pause.
Le problème de la classe dirigeante française, et en particulier de Macron, c'est qu'il n'a pas réussi à tenir ce rôle.
Henri Stavniak, merci. On fait une pause.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h36, on est ensemble jusqu'à 20h sans pub avec nos experts Léonidas Calogero-Poulos, président du cabinet Médiation et Arguments, fondateur d'Entreprendre. D'Entrepreneur pour la République. Pardon, je ne veux pas y arriver.
Mais vous inquiétez pas.
Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés, et Franck Morel, avocat associé, ancien conseiller social d'Édouard Philippe. Franck Morel, vous gardez la parole. Vous vouliez réagir aux propos d'Henri Sterdignac sur la démocratie et les élites coupées du reste de la France et des Français.
On a effectivement le résultat en 3/3 de l'Assemblée nationale, qui est le reflet du vote populaire, ce que vous avez dit. Mais à la base, le problème vient aussi de l'incapacité réelle de chacun des trois blocs, en réalité, alors avec des niveaux de responsabilité différents, mais quand même de chacun des trois blocs successivement, de se prêter, dans la circonstance que nous vivons, à une forme de compromis. Je vais développer. S'agissant du bloc central, on a vu dans les débats au moment du vote du budget qu'il y a eu un certain nombre de raidissements que le bloc central a finalement réussi à surmonter, mais sur lesquels on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va véritablement y arriver dans une situation qui est quand même une situation qui était difficile pour Michel Barnier ? Est-ce que le fait de faire monter les enchères de la part d'un certain nombre d'acteurs du bloc central était quelque chose de pertinent dans la situation que l'on vit aujourd'hui ? S'agissant du bloc de gauche, on voit bien que le problème, une partie du problème, vient de l'incapacité de la gauche modérée à réussir à s'affranchir réellement de la gauche avec tout ce que cela renferme de caractère sulfureux d'un certain nombre de positions qui ont été prises par la gauche de la gauche. Le dernier épisode en date, avec l'attitude de Sophia Chikirou pendant l'hommage de Michel Barnier à l'ancien maire de Saint-Malo, absolument honteux. C'est à vomir, effectivement, d'avoir un comportement comme ça qui pose vraiment des questions sur l'attitude en termes de respect de la démocratie, de valeurs
de civisme élémentaire,
effectivement, de la part de la parlementaire en question. Donc, côté gauche, effectivement, on a ça. Et puis, côté Rassemblement National, on voit bien qu'on a eu un jeu de maître chanteur, il faut dire ce qui est, à travers un certain nombre de demandes qui ont été mises sur la table. Et puis, je te demande ça, et puis je t'accorde ça, mais une fois que j'ai obtenu ça, je vais demander ça. Le dernier épisode en date avec l'interview de Marine Le Pen à la Tribune Dimanche, dans lequel elle disait, et tout le monde peut relire cette interview, c'est écrit noir sur blanc, si on a satisfaction, soit sur la désindexation des retraites, soit sur l'autre sujet qui était mis en avant.
Elle a surenchéri systématiquement.
Voilà. Elle a surenchéri après, alors même que Michel Barnier avait cédé sur l'autre question. Donc, il y a une vraie difficulté de la part de chacun des trois blocs, avec des niveaux de responsabilité différents, parce que les trois exemples que je viens de donner ne situent pas la responsabilité au même point, si vous voulez. Et donc, effectivement, c'est ça, je pense, le nœud du problème et le nœud de la question qui est posée à nos élites, effectivement, et donc à nos parlementaires et à nos mouvements politiques, par-delà les parlementaires, c'est la capacité à s'inscrire demain dans une logique de compromis pour aider notre pays à surmonter la crise qu'il traverse. Il y a quelque chose qui a été mis sur la table tout récemment par un certain nombre d'acteurs qui consisterait, il y avait eu une tribune il y a quelques semaines d'un député socialiste qui s'appelle Philippe Brun, je crois, autour de l'idée d'un pacte de non-censure.
Oui.
On n'en est pas effectivement à faire un pacte de coalition, c'est-à-dire un pacte d'adhésion, ou alors si un tel pacte a lieu, il sera forcément limité et il ne couvrira pas un champ qui permet d'avoir une majorité d'adhésion. En revanche, si on arrive au moins à avoir un pacte de non-censure...
Et vous y croyez à ça ?
Je ne sais pas si j'y crois, en tout cas je l'espère très fortement, parce que je serais véritablement satisfait pour mon pays, pour notre pays, si on arrive à obtenir ce genre de truc pour pouvoir avoir au moins une action gouvernementale pendant les 9 prochains mois, effectivement, jusqu'à ce que le président de la République recouvre le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, qui permette quand même de piloter notre pays.
Léonidas Kalogeropoulos, est-ce que cette logique de compromis en France, elle est possible selon vous ?
Écoutez, moi je pense qu'il y a au moins la nécessité d'un compromis sur le diagnostic. C'est quand même invraisemblable qu'on ne puisse pas au moins se dire qu'avant de chercher les solutions et se mettre à se chamailler sur les solutions, on puisse au moins constater que nos retraites sont en déficit, qu'elles pèsent sur le déficit public global, que nous sommes à un
degré... Ça, il y a une bataille de chiffres sur le déficit, les états des comptes. Ça a été comme une découverte en septembre.
Oui, mais enfin, c'est quand même invraisemblable que après avoir eu... On a le corps, on a des institutions qui sont supposées nous donner des chiffres exacts, que l'on soit même pas sur le constat factuel du fait qu'il y a aujourd'hui une subvention de 30 milliards pour que nos retraites soient à l'équilibre, et qu'au moins sur ce point-là, on puisse se dire, c'est déjà des équilibrés, donc il faut qu'on les rééquilibre, parce que c'est quand même ça le principe de la retraite par répartition. Donc sur la question des déficits, les chiffres ont dérapé. Après, on peut regarder le passé et s'entre-déchirer sur comment on en est arrivé là. Mais aujourd'hui, on est entre 5 et 6 de déficit. Ça, ce n'est pas Bruxelles qui nous impose de le corriger. N'importe quel comptable d'une entreprise ou d'un État peut se dire ça, c'est pas possible, il faut qu'on reprenne la maîtrise de nos comptes. Donc, on dirait que même sur des sujets aussi factuels que véritablement l'imminence d'un danger, on n'est pas capable d'avoir des constats communs. C'est-à-dire que l'on finit par, en tant que citoyen, par avoir le sentiment que l'intérêt de fabriquer du conflit est plus intéressant que la responsabilité collective de trouver un certain nombre de points d'accord qui permettraient au moins d'avancer. Et ça, c'est véritablement pas possible. C'est pour ça que je reviens à ce point qui me semble être une réalité factuelle. L'arithmétique, elle est l'arithmétique. La démocratie et le débat ne doivent pas venir empiéter sur des faits qui sont... par moment non discutable. Après, on peut discuter des résultats, des solutions.
Mais mon cher Léonidas, les 30 milliards que vous dites, je ne suis, c'est faux. C'est faux. Ça repose sur un calcul complètement saugrenu selon lequel le taux de cotisation apparent des fonctionnaires devrait être le même que celui du privé. Mais il y a aucune raison. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on est totalement d'accord sur le constat. Tout le monde est d'accord pour dire il y a 6,1% de déficit français. Tout le monde est d'accord pour dire à l'avenir, naturellement, il y a un problème de financement des retraites, on n'est pas d'accord sur la solution. Certains disent, eh ben, il faut augmenter les taux de cotisation. C'est une solution tout à fait respectable. On peut dire aux travailleurs, si vous voulez maintenir le système quel qu'il est, il faut que vous acceptiez une hausse des taux de cotisation.
Et sur, Henri Sardinac, s'il vous plaît, pardonnez-moi, vraiment, vous êtes un honnête homme, et je le sais,
et
l'honnête homme que vous êtes, comment peut-il dire que le problème des retraites ne trouve de solution à 62 ans qu'en France, alors qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui est à 62 ans? Comment vous le dites, à part de considérer que le débat peut permettre de dire que la Terre est plate, que je... Enfin, il y a un moment donné où, les faits sont quand même un peu des éléments autour desquels on raisonne.
Le débat consiste à dire...
La planète entière augmente l'âge au départ à la retraite, mais nous allons trouver la solution à 62 ans. C'est miraculeux.
Le débat consiste à dire aux travailleurs, aux salariés, aux citoyens, vous avez le droit de choisir le niveau des retraites et les conditions de départ, à condition que vous êtes prêt à payer un certain niveau de cotisation. Donc, c'est, je veux dire, vous ne pouvez pas dire que le discours que je tiens n'a pas un sens et que je n'ouvre pas un champ à la démocratie. Et voilà. Et donc,
j'aimerais qu'on aborde une autre question. Allez-y,
Franck Morel. Pour rebondir très vite, le problème, c'est qu'on ouvre à nouveau un sujet qui a été clôturé récemment à grand peine, oui. Et on a réussi à faire adopter une réforme qui était éminemment nécessaire.
Mais on y revient.
Par rapport à des données démographiques qui sont implacables, factuelles. Parce qu'effectivement, factuelles, implacables, et une dégradation sur longue période du ratio entre ceux qui cotisent et ceux qui perçoivent une retraite. Si on veut pas faire en sorte que le niveau de pension de nos retraités soit drastiquement abaissé, et si on veut pas faire en sorte, et après c'est effectivement un élément de débat, si on veut pas faire en sorte de faire peser sur les actifs des niveaux de cotisation plus élevés, alors même qu'on a en ce moment un débat sur le fait que le travail ne paye pas assez, vous imaginez, on va dire, alors que même
alors
qu'on a un débat sur
ça
le
rejoint,
sujet,
ça
on va faire payer plus.
Ça rejoint la question que je voulais vous poser. Attendez, et Henri Stadniak, ça rejoint la question que je voulais vous poser, Franck Morel, parce qu'on assiste en ce moment, depuis quelques semaines, à une succession de plans sociaux dans l'industrie, dans la distribution, l'immobilier est à la peine, les agriculteurs sont en colère. Il y a encore beaucoup d'attentes des Français sur le pouvoir d'achat. Quand on peint ce tableau, on se dit il suffirait d'une petite étincelle pour voir réapparaître, par hasard, par exemple, des gilets jaunes.
Oui, bien sûr, le climat, j'employais tout à l'heure le mot anxiogène, et je confirme ce mot à la lumière de la situation politique. En plus, effectivement, on a toute une série de signaux faibles qui sont préoccupants sur la santé économique et la santé du marché du travail. Les signaux faibles, c'est le nombre des faillites, effectivement, qui est remonté à un niveau supérieur à ce qu'il était avant la crise.
On devrait atteindre 65 000 faillites, selon la Banque de France cette année.
50 000 avant la crise Covid. Absolument. C'est l'intérim, qui est traditionnellement un signal faible, qui est souvent mis en avant, qui ne va pas bien, effectivement. Et puis, c'est un certain nombre de plans sociaux. Donc, à partir de là, malheureusement, on n'a pas de formule magique, on n'a pas de baguette magique. Et par ailleurs, on a une appétence, effectivement, on l'a dit, en matière de pouvoir d'achat, un certain nombre de gens qui expriment un certain nombre de revendications sur la question.
Mais ça veut dire qu'il y a une crise sociale qui couve également.
On a un climat social qui est très tendu. Alors, paradoxalement, le fait que la situation politique soit très tendue peut avoir, paradoxalement,
un effet
peut-être un peu anesthésiant sur le climat social. Parce qu'en réalité, quand est-ce que les plus graves crises sociales se sont manifestées et que les plus grands soubresauts en matière de climat social se sont posés? C'est plutôt dans des situations où la situation économique allait en s'améliorant, dans des périodes de sortie de crise, et où au contraire, il y avait une forme d'impatience sur le fait de pouvoir enfin récolter les fruits de la sortie de crise. Souvent, quand on regarde l'histoire...
Quand on est en plein milieu de la crise, ça gêne.
Souvent à ce moment-là. Et quand on est au plus fort de l'œil du cyclone, et on a le sentiment malheureusement d'être un peu dans l'œil du cyclone, c'est pas vraiment là. Alors, c'est pas une science exacte après, hein. Je suis extrêmement humble par rapport à ça. C'est tout sauf une science exacte. Et les événements peuvent aussi être amenés à se démentir. Et souvent, je sais plus qui disait, l'histoire nous enseigne qu'elle ne se répète pas forcément et que...
Les mêmes causes produisent pas toujours les mêmes causes effets. Ne pas forcément.
Mais peut-être que s'il n'y a pas de gouvernement, ça dissuadera la SNCF et sa CGT de faire grève juste avant Noël. Oui. Puisque désormais, c'est devenu un rituel de chaque fin d'année.
On va parler maintenant de l'attractivité de la France au regard de cette crise qu'on traverse. La France, c'est la championne des investissements étrangers jusqu'à présent en Europe. Est-ce que, selon vous, la confiance pourrait s'effriter? On a The Economist qui affiche un merde en couverture, avec en sous-titre « La France dans l'inconnu ». En Espagne, le quotidien catalan La Vanguarda parle d'un dangereux saut dans le vide. Le Der Spiegel écrit que le principal partenaire de l'Allemagne au sein de l'UE s'enfonce dans une double crise politico-financière.
Je voudrais vous dire...
Est-ce qu'on est la risée de l'Europe?
Je vais vous dire, sincèrement, j'espère que Franck Morel me le pardonnera, mais je ne regarde pas l'État et le gouvernement comme étant la vérité de notre pays. Notre pays sont ces entrepreneurs, sont des gens qui se battent toute la journée, qui investissent, qui prennent des risques, qui innovent. Et le tissu économique qui est dans l'attentisme et qui est excédé par ce à quoi il assiste venant de la part de l'État, n'arrête pas de se battre tous les jours pour reprendre des entreprises, pour investir, pour avancer malgré tout. Et je suis absolument convaincu que malgré cette période très compliquée que nous traversons, le pays en lui-même est plein d'une énergie absolument phénoménale. Et j'ai la faiblesse de penser que ça va très largement transcender et balayer ce moment politique assez désolant.
Je suis très heureux de cet optimisme.
J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes optimiste sur la question du traité du Mercosur, traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud? Ursula von der Leyen, elle est arrivée en Uruguay. Elle pourrait ratifier le traité. Elle a tweeté la finalisation de l'accord est en vue, malgré l'opposition catégorique et répétée de Paris. On a encore Emmanuel Macron qui a redit cet après-midi que cet accord est inacceptable en l'état. Faut y aller ou faut pas y aller, Henri Sterdyniak, sur le Mercosur?
La question n'est pas s'il faut y aller ou faut pas y aller. La question, c'est que Madame Ursula von der Leyen va signer le traité du Mercosur parce que c'est le point de vue de l'Allemagne, parce que c'est le point de vue de la Commission, donc que la France est affaiblie, donc elle va naturellement toutes les entreprises innovantes, modernes, tous les lobbies sont pour cette signature, au détriment de certains secteurs qui sont des variables d'ajustement comme l'agriculture. Donc ça va être signé. Ensuite, la question, ça va être de savoir est-ce que la France va trouver une majorité
de blocage pour bloquer le texte en Conseil.
Sachant qu'on peut compter un peu sur la Pologne et sur l'Italie, mais qui sont fragiles parce qu'ils reçoivent beaucoup de subventions actuellement européennes. On peut compter sur la Wallonie, tout ça.
Mais ça pourrait pas faire le poids, Franck Morel.
Ça va être le combat. Et la France actuellement n'est pas en bonne forme pour le mener.
C'est-à-dire que le moment est malvenu, quoi.
Oui, je trouve qu'effectivement, la concomitance entre la situation politique actuelle et les velléités, effectivement, de signature du traité Mercosur ne sont pas un hasard, effectivement. Vous l'avez souligné. Il y a un momentum où la France est plus faible encore parce qu'elle est dans un entre-deux politique. Alors, le film n'est pas fini pour autant, vous l'avez rappelé. Ça veut dire qu'ensuite, il y a une décision du Conseil européen et la France peut aller chercher une minorité de blocage, effectivement, en espérant rallier à sa cause et la Pologne. Alors, la Pologne, c'est déjà le cas, mais l'Italie et d'autres pays, effectivement, pour essayer de faire en sorte de faire échec à cette ratification.
Allez, on est en retard, messieurs, c'est l'heure de l'extra time. Comme tous les soirs, vos avis du soir, coup de gueule, coup de cœur. Léonidas.
Oui, je veux bien un coup de cœur pour François de Rugy. Il avait déposé une proposition de loi constitutionnelle, je l'ai ici. Et cette proposition de loi, c'était en faveur d'une procédure de motion de censure constructive, le même modèle qu'en Allemagne. Là, en Allemagne, vous le savez, le régime nazi l'a emporté parce qu'on faisait tomber des gouvernements avec des alliances de communistes et des nazis. Et donc, il faisait tomber constamment les gouvernements, mais sans proposer qui que ce soit. En Allemagne, de ce fait, la constitution prévoit la défiance constructive. On ne peut faire tomber un gouvernement que si on a un gouvernement à proposer à la place. Ah. Et c'est ce que proposait François de Rugy. C'était en 2015. On l'aurait suivi, on l'aurait adopté. On ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes depuis hier soir.
Franck Morel.
Alors, c'est amusant parce que j'avais exactement le même... Alors, dans le sens coup de gueule, c'était un coup de gueule contre les motions de censure qui ne peuvent pas être constructives.
Donc, effectivement, vous vous rejoignez donc.
On se rejoint complètement. Et je voudrais dire que si on prend l'exemple du modèle allemand en la matière, il y a déjà eu un précédent, puisqu'en 1982, quand Helmut Kohl a succédé à Helmut Schmidt, c'était les libéraux qui, à l'époque, avaient changé d'alliance et avaient permis, effectivement, de censurer constructivement Helmut Schmidt pour permettre à Helmut Kohl d'accéder au pouvoir. Il y en a assez de ces systèmes qui permettent à une majorité de pure opposition non constructive, effectivement, de faire échec. On le voit bien dans la situation actuelle.
Ne pas faire l'alliance des casseurs.
Voilà, il faut passer à un système constructif.
Moi, je veux parler d'un tout autre sujet. Je veux parler du CCF. Donc, le CCF, avant, s'appelait HSBC France. HSBC France a été vendu, si on peut dire, par HSBC à un fonds d'investissement, Kreberus, qui a promis, qui a reçu 1,6 milliard pour prendre en charge le CCF, qui a promis de maintenir l'emploi. Les travailleurs ont travaillé, si on peut dire, pour changer le sigle, tout ça. Et là, on apprend aujourd'hui que, sitôt l'année écoulée, les 36% des travailleurs, soit 1400 personnes, vont être licenciés. De toute évidence, le capitalisme n'a aucune reconnaissance pour les travailleurs.
C'est les plans sociaux dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs.
Je me permets de dire, Henri Sardinac, que pour moi, les capitalistes et les entrepreneurs, c'est pas toujours la même chose, loin s'en faut.
Eh bien, je suis totalement d'accord avec vous.
Eh bien, voilà, on termine sur une bonne note, c'est excellent.
C'est pour moi un grand soir.
C'est excellent. Merci Sardinac beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, c'est Tech & Co, présenté par François Sorel. Nous, on se retrouve demain à 18h. Très belle soirée sur BFM Business.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.